L'Opéra de Lille présente du 8 au 19 octobre sa nouvelle production The Rake's Progress, une œuvre d'Igor Stravinsky dans une mise en scène de David Lescot avec le chœur de l'Opéra de Lille et l'orchestre de Picardie dirigé par Harry Van Beck. Harry Van Beck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'orchestre de Picardie et vous avez en charge ce Rake's Progress de Stravinsky pour sa partie musicale. Comment se situe The Rake's Progress dans le travail de l'orchestre?
C'est une pièce presque composée pour l'orchestre de Picardie. Ça veut dire que l'orchestre a un certain nombre de musiciens, une certaine composition des instruments, un groupe de cordes, un groupe des instruments avant, un percussionniste. C'est exactement pour cet effectif que cette opéra est instrumentée, écrite. Donc, ça permet un travail avec l'orchestre du fond. D'abord, il faut trouver la clarté du son. Ça veut dire qu'il faut que tout soit juste, pas faux. Il faut que tout soit comme un montre suisse très rythmique, très précis, que les couleurs sont très claires. Couleurs, ça veut dire une combinaison entre certains instruments, un violon avec une flûte ou un groupe des altos ensemble avec des clarinettes ou deux trompettes ensemble avec les contrebasses. Ça veut dire les couleurs musicales. Ça, c'est un travail de fond et cette pièce de Stravinsky basé sur la musique classique, dite classique, donc l'époque de Mozart, l'époque de Jeune Beethoven, l'époque de Haydn, pas vraiment le même type de musique, mais c'est la source pour Stravinsky pour composer sa musique. L'orchestre qu'il utilise est exactement le même orchestre de Mozart, que Mozart a utilisé dans le Don Giovanni par exemple, ou dans le Nozze Figaro, mais avec des couleurs complètement différentes à cause des combinaisons des instruments. Donc pour un chef d'orchestre, et pour un orchestre, les deux en fait, hein, c'est musique, une opéra excellente pour travailler le style, le niveau de l'orchestre, c'est très exigeant. Je suis très exigeant aussi, les musiciens sont très exigeants. Et c'est pas grave parce que la musique a une telle qualité que ça nuit jamais de travailler au fond, encore une fois, non, plus beau, non, c'est pas juste encore, non, encore une fois, non, encore une fois. Tout le monde, les musiciens et moi, font ça avec un grand plaisir parce que la musique mérite. Imaginez qu'on a une musique qui n'est pas très intéressante, mais très difficile, ça c'est très difficile pour le travail. Pour garder le moral et l'envie de travailler. Mais avec cet opéra de Stravinsky, il n'y a aucun problème.
Donc c'est un opéra avec des chœurs, avec des chanteurs. Oui. Et donc la partie scénique est également très importante. Est-ce que pour vous, en tant que chef d'orchestre, c'est quelque chose qui vous apporte un certain confort d'avoir des partenaires qui illustrent ou que vous accompagnez, mais qui donnent un ensemble beaucoup plus large qu'une musique qui n'est peut-être pas faite pour cette partie uniquement musicale?
L'histoire, le drame aide pour l'interprétation de la musique, ça c'est sûr. Mais je crois même sans interprétation, sans drame, la musique est très claire. On sent tout de suite ces musiques gaies ou musiques tristes ou n'importe quel affect ou quelle émotion Stravinsky voudrait exprimer, ou même avec un double sens, musique qui peut être très gaie, mais au fond il y a quelque chose de très triste. Ça se sent aussi dans la musique. Mais bien sûr, le drame aide toujours. Dans les autres œuvres aussi, quand on sait que Beethoven, la 6e symphonie, donne un titre pastoral, ça veut dire quelque chose. Hein? Mais il faut quand même toujours essayer de trouver quelque chose qui parle au public énormément. Par rapport à la scène, ça facilite pas toujours, parce que même la scène et moi, musicalement, il faut qu'on s'adapte. Il faut que le chœur, par exemple, ils font un jeu, ils sont des acteurs, mais ils peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'il faut avoir le contact avec les chefs d'orchestre. Il faut toujours avoir le contact avec l'orchestre dans la fosse. Ça, c'est une difficulté complémentaire. Imaginez que on fait cette opéra pas scénique, mais que musicalement, cet aspect de la mise en scène n'est pas là et ça facilite. Donc, il y a un peu une difficulté, mais ça, c'est un challenge. Hein. Comment dire en français, un challenge, oui. Et c'est un travail aussi. On a des répétitions, on a plusieurs journées pour régler certains problèmes.
Donc, à Rivenbeck, l'orchestre de Picardie s'installe dans un partenariat à long terme avec l'Opéra de Lille. Mm-hmm.
Oui, mais pour moi, c'est la première fois avec l'orchestre de Picardie et l'Opéra de Lille. Mais l'orchestre travaille déjà des années ensemble avec l'Opéra. Donc, eux, ils ont, c'est pour eux une maison, leur maison ici, un tout petit peu aussi. Hein. Pour moi, c'est tout nouveau, mais je suis ravi parce que ici, à l'Opéra, le niveau et le professionnalisme est très élevé. Un cadre fantastique. L'orchestre est complètement ouvert à travailler profondément. L'ambiance est très, très bien. Donc, les conditions sont là pour faire un beau travail.
David Lescaut, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le metteur en scène de ce Rex Progress, la carrière d'un libertin. On parle de la carrière d'un libertin, ce n'est pas plutôt la déchéance d'un libertin?
Oui, c'est tout son parcours en réalité, c'est-à-dire les ambitions qu'il formule au début, et puis son ascension fulgurante et sa chute encore plus vertigineuse. Ouais, il y a toutes les parties d'une carrière, mais c'est vrai que cette carrière se conclut de manière très funeste.
Donc c'est un opéra, pour vous, qui a un argument solide?
Oui, il y a une action dans ce livret qui est extrêmement riche, avec beaucoup, beaucoup d'événements, de rebondissements, de coups de théâtre, de surprises, d'accidents. Ça, c'est une des caractéristiques de cette œuvre-là. Ouais.
Qu'est-ce qui lui reste de contemporain et comment vous l'avez adapté à notre époque?
Il a été écrit à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, cet opéra, donc il était déjà dans des problématiques de crise, sortie d'un grand cataclysme, possibilité de reconstruire le monde différemment, mais déjà de la part de ses auteurs, une sorte de désenchantement, on a l'impression qu'ils y croient plus. Et c'est assez beau ce sentiment, parce qu'il y a à la fois un espoir et en même temps une grande méfiance de la modernité aussi, je crois. C'est-à-dire qu'ils voient l'envers des choses, tous les deux. C'est des artistes qui ont été très proches de la modernité, mais je crois qu'à ce moment-là, ils s'en méfient parce qu'ils se rendent compte qu'elle va être fourguée un peu à toutes les sauces, qu'on va la vendre comme un mode de vie, comme un produit. Et je crois que tout à coup, ils ont besoin de se mettre un peu en retrait et de regarder tout ça en riant, quoi.
Donc David Lescaut, vous êtes un jeune, ce qu'on peut dire un jeune metteur en scène. On vous a confié cette mission très importante, un opéra. C'est votre premier opéra. Vous n'avez pas choisi d'aller très en avant dans des choses qui perdent peut-être un petit peu le spectateur.
Ah, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'était la proposition de Caroline Sonrier. Je crois pas que j'ai essayé de brouiller les cartes, effectivement. J'ai essayé d'être le plus fidèle possible à cette œuvre, qui est encore une fois extrêmement plaisante. D'abord, elle est très riche. poétiquement, musicalement, évidemment, mais elle est drôle aussi. Et je crois que cet humour, il fallait le restituer, lui être fidèle, et trouver le moyen finalement de raconter cette histoire pour que tout le monde puisse la suivre, parce qu'elle comporte une morale qui est finalement assez difficile à interpréter. L'histoire elle-même, on la suit très bien, on est suspendu, mais lorsqu'arrive le moment de tirer les enseignements de tout ça, là, je crois que c'est laissé à la discrétion de chacun, et finalement, c'est pas si simple.
Donc, c'est une œuvre pour vous qui va être marquante ?
Ah oui, forcément, c'est mon premier opéra, donc je m'en souviendrai, oui.
Qu'est-ce que ça vous a demandé comme adaptation particulière ? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette œuvre qu'il a fallu combiner, mettre en phase ? Est-ce que ça vous a paru complexe ?
Oui, c'est très complexe, parce que d'abord, on est soumis au temps de la musique. C'est la différence avec le théâtre, où on choisit finalement son temps. Là, il faut que ça aille au rythme où la musique se déroule. Et c'est particulièrement difficile entre les différentes scènes. C'est-à-dire trouver le moyen de passer d'une scène à l'autre sans que ça prenne trop de temps et sans arrêter la machine. Donc ça, c'était une chose sur laquelle on a beaucoup planché. La grande différence aussi avec une autre manière de travailler, c'est la préparation. Je crois qu'il faut préparer énormément, énormément. Se laisser quand même un temps de liberté, d'invention, au moment où ça se passe, au moment où on voit les chanteurs interpréter leur rôle et pouvoir être dans un dialogue avec eux dans le présent. Mais plus qu'au théâtre, préparer en amont, parce que sinon on est embarqué dans une tempête dans laquelle on n'arrivera pas à retrouver son chemin.
Donc il y a des parties où vous amenez des images, du mouvement, etc. Puis d'autres où vous respectez les moments chantés qui nécessitent une certaine, une certaine sérénité.
Oui, c'est plus ou moins chargé. Il y a plus ou moins de choses, mais ça correspond un peu à la structure et au contenu des scènes elles-mêmes. Par exemple, lorsque Anne Trulove chante la scène 3 de l'acte 1, décide d'aller rejoindre Tom à Londres, dans une sorte de monologue comme ça, très lyrique et très solo, très, très délibératif aussi. Je crois qu'il ne faut pas rajouter beaucoup de choses. Donc là, la mise en scène est très dépouillée, par exemple. Et puis à d'autres moments, au contraire, il faut qu'elle soit très remplie et qu'il y ait beaucoup d'éléments qui soutiennent le jeu et le chant.
Merci David Lascaux.
Merci à vous.
Vous pouvez découvrir The Rex Progress à l'Opéra de Lille jusqu'au 19 octobre. Réservation sur internet au www.opéra-lille.fr. C'était une émission de René Lavergne de Radio Campus.